Vous écoutez l'émission Portrait d'un colonialiste.
Alors, comme d'habitude, on va essayer de parler des techniques de domination coloniale passées et futures ici et ailleurs. Passées et présentes, c'est mieux, je pense. Ici et ailleurs. Au sein de cette émission, tout en essayant de mettre en avant les peuples ou communautés qui résistent et ainsi que leurs stratégies de résistance mises en place. C'est souvent des stratégies de résistance qui nous donnent à nous de l'espoir. Donc voilà, l'émission a pour but aussi de poser la question de notre place, nous en tant qu'occidentaux européens français, et les mécanismes coloniaux qu'on nous a souvent mis dans la tête. Donc aujourd'hui on va parler de l'agriculture en Palestine, plus précisément en Cisjordanie, avec Auré et Ada ici présents. Donc bonjour Auré.
Bonjour.
Bonjour Ada.
Salut Rams, merci de nous accueillir.
Je proposais comme introduction du coup de commencer par un historique un peu et qu'on commente un peu ensemble ou qu'on discute ensemble s'il y a des remarques. Alors, pour commencer, le mouvement sioniste est un mouvement initié par des Européens, des bourgeois juifs hongrois qui, à la fin du 19e siècle, veulent installer des colons en terre de Palestine. Ce mouvement ne fait pas du tout l'unanimité au sein des diverses communautés juives. Bien au contraire. Tous les rabbins allemands vont signer une pétition contre le sionisme. Pour plus de détails, vous pouvez écouter l'émission en deux parties que l'on a fait avec le collectif CEDEC, collectif juif décolonial antiraciste, où l'on parle en détail du sionisme et de ses origines, pour ne pas confondre antisionisme et antisémitisme. Alors, si on revient à l'histoire, il y a toujours eu des juifs en terre de Palestine. Ça se passait plutôt très bien, c'est la colonisation qui a foutu la merde. On peut commencer à la fin de la Première Guerre mondiale. La France et les Britanniques découpent l'Empire ottoman. Les Britanniques occupent la Palestine, puis officialisent leur occupation par un mandat d'occupation coloniale. Dans cette ambiance mondiale de colonisation, le projet sioniste, qui est à la base un projet raciste et colonialiste, essaye de s'imposer en terre de Palestine avec l'aide des Britanniques. Dans les années 20, il y a environ 10% de juifs et 12% de chrétiens. Le mouvement sioniste va essayer de s'appuyer sur les juifs qui habitent déjà en Palestine pour essayer de s'imposer sur la terre de Palestine, notamment en s'imposant économiquement. À partir de cette époque, les années 20, de nombreux juifs qui arrivent en Palestine sont des sionistes qui arrivent avec une vision capitaliste, une vision économique capitaliste. Avec l'aide du colon britannique, les colons sionistes vont créer une économie d'entreprise parallèle. Les sionistes essaient de se faire bien voir des Britanniques pour devenir le bras armé du développement capitaliste en terre de Palestine. Les sionistes obtiennent par exemple des Britanniques, des exemptions d'impôts pour les juifs qui arrivent en Palestine et des exemptions de taxes pour les entreprises juives. L'économie sioniste d'entreprise capitaliste va mettre à mal l'économie palestinienne, qui est une économie basée sur l'agriculture et les traditions paysannes. Les sionistes ont créé des institutions pour s'imposer et s'accaparer la terre de Palestine. Jouant sur plusieurs tableaux, les sionistes utilisent par exemple leur syndicat, l'Histadrut, pour imposer la préférence du travailleur juif. Jewish labor.
Et je crois aussi que ce que tu disais là, Jewish Labor, c'était vraiment une sorte de label qui était mis sur les produits qui étaient vendus. On savait que ça avait été fabriqué en kibboutz, etc. Que c'était vraiment un truc presque commercial, quoi.
L'Istad Roots ira jusqu'à engager des gardiens du travail pour intimider les employeurs, notamment les employeurs juifs, et pour intimider aussi les travailleurs arabes pour qu'ils partent. Les sionistes utilisent aussi une autre de leurs institutions, le Fonds National Juif, FNJ. Le Fonds National Juif, qui a été créé en 1900, est chargé d'acheter un maximum de terres en Palestine. Le Fonds National Juif rachète les terres pour les donner exclusivement aux Juifs, interdisant tout transfert et toute vente aux Arabes. La société palestinienne, à cette époque, c'est 60% des Arabes palestiniens qui vivent de la terre. Mais ils ne sont pas forcément propriétaires de leurs terres. Ils ne possèdent pas forcément la terre, ils sont souvent métayés. D'ailleurs, le principe du métayage, toi, Ada, tu vois ce que c'est ?
Ouais, carrément. Du coup, c'est un mode de travail de la terre, où les propriétaires terriens ne vont pas être ceux qui travaillent la terre. Et donc, il va y avoir des métayers qui souvent vivent sur les terres cultivées en famille et qui à l'issue de la récolte vont partager selon un pourcentage fixé en avance leur récolte avec les propriétaires terriens. Donc par rapport à être locataire, en fait, ça veut dire que on peut pas trop s'endetter auprès du propriétaire terrien, puisque si la récolte est très mauvaise, et le propriétaire et les métayers auront très peu. Donc ça peut être problématique, mais ça crée pas des surendettements car il y a un loyer fixe à remettre au propriétaire.
Donc souvent, les paysans sont expulsés de leurs terres sans compensation ou très peu. Le paysan perd son moyen de subsistance et ça met à mal la structure sociale palestinienne basée sur la terre. Les paysans partent vers les villes pour essayer de trouver d'autres moyens de subsistance. On peut prendre comme exemple un village de Majen ibn Amer, où 7830 villageois sont expulsés. Ils sont expulsés après que la terre fut vendue aux sionistes.
Oui, et je crois que la plupart des propriétaires terriens qui travaillaient eux-mêmes la terre dans des petites exploitations ont plutôt refusé de vendre leurs terres aux sionistes parce qu'ils avaient très bien conscience de l'enjeu impérialiste derrière et que c'était important de résister et de ne pas vendre la terre.
La terre est souvent vendue grâce au nouveau découpage des frontières dans la région fait par les colonialistes français et britanniques. En plus de tout, les paysans palestiniens sont les plus lourdement taxés en Palestine. La politique du gouvernement britannique place le paysan dans une situation vraiment merdique. Cette situation permet l'établissement d'un foyer juif en terre de Palestine. Le colon britannique donc n'y est pas pour rien dans la mainmise sioniste sur la Palestine.
Oui, et c'est aussi hyper nécessaire pour comprendre un peu aujourd'hui l'agriculture palestinienne, puisque c'était une société paysanne et qu'il y a eu autour de cette colonisation-là un enjeu autour de la terre et de la production agricole qui a toujours été hyper central dans le processus de colonisation.
Ah ouais, carrément. Donc par ce processus de colonisation qui coupe ce lien à la terre, la société palestinienne rurale risque d'être détruite. C'est donc ce qui va amener les révoltes en Palestine, d'abord en 1929, puis en 1936 et 1939. Vous pouvez retrouver le texte de Hassan Kalafani, sur lequel nous on s'est basé,
Il s'intitule « La révolte de 1936-39 en Palestine ».
Voilà comment se passent les révoltes de 36-39. À la campagne, la révolte adopta la forme de la désobéissance civile et de l'insurrection armée. Les paysans étaient presque complètement à la tête de la révolution. Le sentiment révolutionnaire qui prévalait dans toute la Palestine poussait les citadins, donc ceux qui habitaient en ville, à porter les habits paysans, le kéfier et la galle. En fait, c'était un moyen pour que les paysans qui venaient en ville ne puissent pas être harcelés ou arrêtés par les autorités. C'était quand même un moyen de solidarité assez intéressant. Et plus tard, ils ont même décidé de s'interdire de porter sur soi des cartes d'identité, de telle sorte que les autorités, toujours, ne pouvaient pas distinguer un citadin d'un rural. La victoire va presque avoir lieu. Mais finalement, non. C'est une défaite. Ce sont les villageois et les paysans qui vont payer le plus lourd tribut de cette révolte. Les colonisateurs britanniques vont s'appuyer sur les colons sionistes et vont donc les former aux techniques militaires de répression coloniale ainsi qu'aux techniques coloniales de contrôle des populations.
Oui, ils sont même vraiment aidés des sionistes pour faire alliance et garder le contrôle sur la population palestinienne et aussi pour réprimer cette même population.
Les colonisateurs britanniques, ils vont ainsi former les milices sionistes qui constitueront après l'armée israélienne. Les sionistes vont développer les dossiers des villages. Dossiers qui mélangent renseignements militaires et renseignements agricoles sur tous les villages palestiniens. Dans ces dossiers des villages, il y a la topographie de chaque village, ses voies d'accès et la qualité de ses terres, ainsi que ses ressources en eau. En 1943, les sionistes rajoutent dans ces dossiers les équipements liés à l'élevage, les terres cultivées, le nombre d'arbres dans les plantations, la qualité de chaque verger, voire de chaque arbre, la surface moyenne de terre par famille. On voit donc bien ici la volonté d'accaparement des terres. Alors on va lire juste un extrait du livre d'Ilan Pappé, Le nettoyage ethnique de la Palestine.
Tirat Haïfa était un de ces villages qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, était passé d'une période dure et austère à l'aube d'une ère nouvelle. Les signes de reprise étaient visibles partout. On construisait de nouvelles maisons de pierre et de briques crues. Et les deux écoles du village, l'une pour les garçons, l'autre pour les filles, avaient été rénovées. L'économie était fondée sur les grandes cultures, les légumes et les fruits. Tirad était plus riche que la plupart des villages parce qu'il était parfaitement alimenté en eau, à partir des sources voisines. Sa fierté était ses amandes, célèbres dans toute la région. Tirat al-Louz, Tirat des amandes, était une expression connue de tous en Palestine.
En 1948, c'est donc la Nakba, ce qui veut dire catastrophe en palestinien. Les sionistes proclament d'abord l'État israélien, puis ils réalisent, avec les milices sionistes, devenues maintenant l'armée israélienne, le nettoyage ethnique de la Palestine. Ils sont aidés par ces techniques coloniales et ces dossiers des villages. Ils expulsent 800 000 Palestiniens arabes musulmans, soit 90% de la population arabe musulmane de son territoire. Ils détruisent également plus de 400 villages. On compte également des milliers de morts. Les techniques sont les massacres de masse d'hommes en âge de combattre, la destruction de maisons, la destruction des villages, des déportations, des empoisonnements de l'eau potable, des bombardements et tant d'autres horreurs machiavéliques. À la fin, l'État colonial israélien occupe tout le territoire, sauf la Cisjordanie et Gaza. Plus tard, en 1967, l'État israélien s'empare de Gaza et de la Cisjordanie. Les Palestiniens résistent, puis viennent les accords d'Oslo dans les années 90, où les Palestiniens se font avoir. Ce sera l'autorité palestinienne qui surveillera les Palestiniens pour le compte de l'État israélien. Et ça n'arrêtera rien. Ça lancera toujours plus de colonisation et toujours plus d'accaparement des terres par les colons sionistes israéliens et leur État.
Cyrine appartenait nominalement au sultan ottoman, mais elle était cultivée par des paysans palestiniens. Dans cette région de Palestine, le sol est rude, et l'été, la chaleur est insupportable. Pourtant, l'habitat qui s'était développé autour du Makam et de sources voisines, à 3 km, ressemblait à celui de villages dotés d'un bien meilleur climat et d'une eau coulant en permanence. Cyrine était connue pour être un bel exemple du système collectif de partage des terres auquel tenaient les villageois et qui remontait à la période ottomane. Dans ce village, il avait survécu tant à la capitalisation de l'agriculture locale qu'aux efforts sionistes d'acquisition foncière. Cyrine s'enorgueillissait de 3 riches vergers et d'oliveraies. La terre appartenait collectivement au village et la taille de chaque famille déterminait sa part des récoltes et du territoire.
Donc on a dit que vous vous présentiez. Alors, rebonjour Auré, rebonjour Rada, je vais vous demander de vous présenter un peu plus longuement. Qui commence ?
Allez, je peux y aller. Moi c'est Auré, j'habite à Marseille, je ne suis pas un universitaire ou quoi sur le sujet, simplement on est parti en Palestine dans le cadre d'une campagne de Louac qu'on présentera plus tard. Et on a eu l'occasion d'entendre plusieurs témoignages, analyses et tout ça, et on a continué à creuser un petit peu dans notre coin à notre retour. Mais voilà, on n'est pas des experts. Moi, je suis ouvré dans le bâtiment, donc on prétend pas avoir toute la vérité sur le sujet, mais on est là pour parler de notre expérience et des témoignages qu'on a pu recevoir.
Donc effectivement, on est parti donc avec une ONG palestinienne en Cisjordanie pour être et travailler avec des communautés rurales agricoles. Donc moi non plus, moi je suis aussi à Marseille et je travaille dans l'associatif. Et voilà, mais c'est vrai que depuis, on s'est pas mal intéressé à la question... et du travail agricole, mais aussi de la souveraineté alimentaire, de l'autonomie alimentaire en Palestine et surtout en Cisjordanie. Et on a aussi rencontré plein de gens hyper inspirants, dont plusieurs qu'on pourra entendre pendant cette émission.
Mais du coup, qu'est-ce que vous saviez en partant de Louac et, je sais pas, il y avait une campagne quand vous êtes parti, ils vous ont appelé, ça s'est passé comment?
Du coup on est plutôt militants dans notre vie de tous les jours et avec d'autres camarades on était partis en Suisse à un festival internationaliste qui s'appelle les Dissidentes et du coup à cette occasion on a vu en conférence Yasmine et Mouayad, qui sont deux personnes qui travaillent à l'OUAC. Donc l'OUAC, c'est l'Union des comités de travailleurs agricoles. Et du coup, c'est une ONG qui, comme son nom l'indique, fonctionne en fédérant des différents comités locaux d'agriculteurs et de personnes qui vivent dans des milieux ruraux en Cisjordanie. Et du coup, à cette conférence...
Et à Gaza.
Et donc à cette conférence, ils nous ont présenté l'ONG, mais aussi la situation un peu dramatique des agriculteurs, la confiscation des terres, l'impact de la construction du mur sans parler de ce qui se passait à Gaza avec juste l'anéantissement des systèmes de production de nourriture. Et avec la guerre en cours, les massacres, le génocide et la crise humanitaire très très grave. Je sais pas, peut-être tu veux dire comment on a pris la décision de partir.
Non, mais voilà, nous, du coup, on n'y connaissait pas grand-chose. On a vu cette conférence, du coup, de cette organisation. Donc, il faut préciser, c'est une ONG palestinienne qui a vraiment été créée et où il n'y a que des personnes palestiniennes qui y travaillent. Et qui, du coup, lance cet appel à volontaires à venir sur place pour participer, pour travailler, pour faire de la solidarité et puis pour témoigner à son retour. Et du coup, ils ont, à l'issue de leur conférence où ils ont expliqué, ils ont dit bon ben voilà, qui veut venir. Et puis nous deux à ce moment-là, on était au chômage, donc on s'est dit pourquoi pas. Et voilà, on est partis sans beaucoup plus de raisons.
On a bien flippé quand même avant oui. de partir. Et je pense qu'on a... Du coup, on a commandé nos passeports. Donc le temps que ça arrive, on a bien gambergé l'idée quand même. Et il y avait un peu... Il y avait un peu d'appréhension, mais après c'était cool parce que du coup on était en contact avec eux par mail, on les a rencontrés une première fois en visio, ils ont pu un peu nous faire un topo sur qu'est-ce qui était attendu de nous, mais c'est vrai qu'on est parti assez rapidement.
Mais du coup vous êtes un petit peu renseigné aussi sur la Cisjordanie et comment maintenant ça fonctionne en fait en Cisjordanie.
Ouais, et ben du coup, oui, on s'était un petit peu renseigné et puis on l'a beaucoup découvert là-bas. La Cisjordanie, donc c'est une des deux, une des plusieurs fractions du territoire palestinien qui est occupée par l'entité sioniste, par Israël. Et du coup, elle est elle-même fragmentée en trois zones. La zone A, qui est globalement les grandes villes palestiniennes à l'intérieur de la Cisjordanie. La zone B, qui est un peu autour de la zone A et certains bourgs. Et la zone C, qui est la majorité du territoire de la Cisjordanie et qui comprend les zones rurales avec toutes les ressources agricoles et l'eau et tout ça.
Et aussi les zones un peu qu'Israël veut garder sous contrôle, par exemple, toute la vallée du Jourdain, parce que c'est aussi la frontière avec la Jordanie. Et du coup, c'est des zones où, eux, ils ont envie d'avoir une présence militaire et forte, quoi, pour pouvoir contrôler la population.
Et du coup, en gros, dans la zone A, c'est un peu plus contrôlé par l'autorité palestinienne. Et la zone B, c'est contrôlé par Israël, et la zone C, c'est complètement contrôlé par Israël. Mais en gros, donc il y a des petites différences, mais en gros, de toute façon, les forces d'occupation israéliennes, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, rentrent partout et font un peu comme chez elles partout. Mais c'est encore, l'occupation est encore plus totale en zone C.
Ok, mais pour revenir du coup, est-ce que je résume bien si je dis que l'autorité palestinienne... C'est un peu du coup quelque chose qui a été créé après les accords d'Oslo et c'est un peu une autorité soumise quand même à ce que veut l'État israélien en fait. J'ai l'impression qu'il y a des liens très forts entre les deux, notamment des questions de taxes par exemple financières, que c'est Israël qui reverse en fait l'argent à l'autorité palestinienne. Mais que, de ce fait, avec les accords d'Oslo, comment ça a été pensé et fait, il y a une totale soumission de l'autorité palestinienne à l'État israélien sioniste.
Ouais, je pense que oui, sur la question économique, l'autorité palestinienne ne peut pas frapper la monnaie. Donc c'est une monnaie partagée entre Israël et la Cisjordanie, les shekels. Et donc tout l'impôt prélevé passe par Israël avant d'être prélevé aux Palestiniens. Donc passe par Israël avant d'être reversé à l'autorité palestinienne. Et Israël prend une grosse taxe. Et parfois juste il coupe ce versement. On a rencontré des fonctionnaires qui recevaient des demi-salaires depuis des mois Voilà, des infirmières, des médecins, des profs. Et oui, c'est ça, c'est un contrôle total.
Oui, effectivement. Et dans la société palestinienne, il y a quand même une grande colère, en tout cas nous les personnes qu'on a rencontrées vis-à-vis de l'autorité palestinienne. Il y a des gens qui disent on est sous double occupation en fait, l'occupation israélienne et celle de l'autorité palestinienne. Et voilà, donc il y a des gens qui le décrivent vraiment comme un espèce de sous-traitant sécuritaire d'Israël en Cisjordanie.
Et aussi l'autorité palestinienne passe une énorme partie de son budget dans la sécurité. Et alors qu'en fait, il y a de l'insécurité en Palestine à cause de l'occupation, et donc c'est un peu absurde de faire un semblant de...
C'est vraiment, voilà, c'est un appareil sécuritaire qui sert à réprimer, y compris les organisations de résistance palestinienne. Là, ces derniers mois, on a vu que, par exemple, à Jenin ou à Tul Karem, il y a eu vraiment des opérations conjointes de l'armée israélienne et de l'autorité palestinienne ensemble pour réprimer les mouvements de résistance.
Et l'autorité palestinienne, elle a un gros budget par rapport à l'agriculture ou...
Non, et du coup, ouais, sur la question spécifique de l'agriculture, alors je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais c'est seulement quelques pourcents, moins de 1%, qui est du budget de l'autorité palestinienne qui est consacré à l'agriculture, alors même que la société en Cisjordanie est une société agraire. Enfin, genre c'est quand même quelque chose qui prend qui a une part assez importante dans la société. Et du coup, nous, les personnes de l'OUAC qu'on a rencontrées, c'était vraiment une de leurs revendications que le budget alloué à l'agriculture passe au moins la barre des 10%. Et qui considérait que ce serait un minimum pour refléter un petit peu les besoins de l'agriculture en Cisjordanie.
Et ouais, juste sur le budget, donc dans ces moins de 1%, il y a quand même une énorme partie qui est dédiée au fonctionnement du ministère, donc les frais de bureau, etc. Ah ouais. Et la deuxième partie qui soutient les plus gros exploitants. Donc on imagine bien les miettes qui doivent rester pour... La majorité des agriculteurs palestiniens qui sont en fait plutôt des petits exploitants. Et juste pour revenir sur le fait que de l'importance de l'agriculture en Palestine, c'est pas tant une importance économique dans le sens où la production, finalement, c'est pas le plus gros secteur économique, c'est le secteur tertiaire, mais ça a une importance symbolique, historique, culturelle, enfin très forte.
Si on revient un petit peu à vous, est-ce que en arrivant en Palestine, ça a cassé un peu, je sais pas, des schémas un peu orientalistes ou des mots un peu colonistes qu'on nous met des fois en Occident dans la tête? Est-ce qu'il y a des choses que vous imaginiez qui étaient complètement différentes? Vous vous êtes dit, ah, là, je pensais pas forcément très bien.
Ouais, carrément. Bah, je pense que. Il y a différentes choses. Je pense qu'un des premiers trucs, moi, qui m'a frappé, c'est qu'en fait, surtout ces dernières années, c'est vrai qu'on a des visions extrêmement noires à travers les médias de ce qui se passe, et à juste titre, du fait du génocide en cours à Gaza. Mais du coup, c'est vrai que quand on est parti, tout le monde autour de nous avait peur, disait mais ça va pas être dangereux et tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que, bah oui, en fait, la violence est partout, elle est omniprésente, tout le monde a des histoires de répression, de violence à raconter. Mais malgré tout, en fait, ben c'est quand même la vie continue. Il y a de la résistance, il y a de la joie, il y a des moments de fête, des moments où on fait des blagues. Et finalement, en fait, même si par moments il y a des explosions de violence, de dureté, des personnes qui vivent des choses très dures, et ben en fait, la plupart du temps, les gens vont chez le coiffeur, font des bonnes bouffes avec leurs amis, et voilà. Donc ça m'a frappé. C'est peut-être bête à dire, mais on s'y attend pas forcément.
Moi, je pense que j'avais un peu l'idée que je rencontrerais des Palestiniens qui veulent partir de Palestine, parce que c'est dur, parce qu'ils ont envie de plus vivre sous occupation. Et enfin, je pense que ça existe. Mais on a aussi rencontré plein de gens qui veulent rester et plein de gens qui sont revenus. Des personnes binationales qui ont grandi aux États-Unis et puis qui ont déménagé après leurs études ou pour leurs études en Palestine. Et donc ça, c'était... Enfin, c'est cool, ouais, de voir que ça attire et que les gens y cultivent l'espoir sur cette terre.
Je voulais essayer de, par la suite, à moins que vous ayez d'autres choses à dire, écouter sûrement Sana. Peut-être vous pouvez un peu présenter Sana.
Ouais, complètement. Donc Louac, ils ont quand même plusieurs dizaines de salariés à Gaza et en Cisjordanie. Et donc Sana fait partie de ces personnes qui travaillent pour l'ONG. Elle se présentera ainsi que qu'est-ce qu'elle fait au sein de la structure. Mais c'est la personne qui nous a accueillis quand on était là-bas à Ramallah dans les bureaux de l'OUAC et avec qui on a lié pas mal de contacts et qui, pour cette émission, a accepté de nous enregistrer un audio pour nous présenter la situation des agriculteurs en Cisjordanie et le travail de l'ONG palestinienne.
Allez, on écoute ça.
Bonjour, je m'appelle Sana, chargée de la coopération internationale à l'OAC, et je vous adresse directement de la Palestine, plus précisément de Ramallah. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la situation agricole en Palestine d'une manière brève, surtout en Cisjordanie après octobre 2023. Alors depuis toujours, depuis des années, le secteur agricole en Palestine subit des effets de l'occupation israélienne, des violences des colons, de l'exploitation des terres et des ressources en eau. Tout ça en particulier dans la zone C, qui représente environ 60% de la Cisjordanie et qui est sous le contrôle total de l'occupation. Mais là, lors des deux ans précédents, cela est devenu plus important, ce qui menace sérieusement la durabilité de ce secteur vital en Cisjordanie. Par exemple, en zone C, toute expansion agricole palestinienne est presque impossible. Les villageois sont séparés de leurs terres par des colonies, des routes de contournement et le mur d'apartheid, ce qui rend l'accès à leurs terres de plus en plus difficile. Depuis 1967, l'occupation israélienne a confisqué plus de 200 000 hectares de terre des Palestiniens en faveur de l'expansion de projets de colonisation en Cisjordanie. Et au niveau des olives, par exemple, qui est un secteur primordial et essentiel pour des milliers de familles, en 2023, plus de 9600 hectares de vergers d'oliviers n'ont pas été récoltés à cause des restrictions de mouvement et les menaces des colons. Et bien sûr, cela a entraîné une chute de la production d'huile d'olive, passant de 36 000 tonnes en 2022. À seulement 10 000 tonnes en 2023. Et donc, ça représente une perte de plus de 10 millions de dollars, car les agriculteurs doivent souvent demander les permis israéliens pour accéder à leurs terres. Mais dans la plupart des cas, ces permis sont soit refusés, soit trop courts. L'eau aussi, c'est une autre grande problématique. Les Palestiniens ont beaucoup moins d'accès à l'eau que les colons. Au niveau de consommation, par exemple, la consommation moyenne d'eau par colon individu dépasse plus de 7 fois la consommation d'un individu palestinien. Et en plus, le zèle des colonies qui polluent les terres palestiniennes, ce qui dégrade la qualité des sols et menace la santé des habitants.
Alors, on vient d'écouter Sana. Sana nous a expliqué du coup comment ça se passe depuis octobre. Il y a un an et demi, 2 ans, je pense que c'est par rapport à ça, depuis le 7 octobre. Et on a pas mal parlé de la zone C. Comment ça se déroule pour les agriculteurs? Vous avez des choses à rajouter, vous?
C'est toujours impressionnant d'écouter Sana décrire la quotidienneté de qu'est-ce que l'occupation engendre au niveau des vies, quoi. Mais oui, c'est vrai que du coup, on parlait des zones tout à l'heure, et entre chaque zone, il y a un checkpoint. Qui vraiment sature les routes de Cisjordanie et qui rallonge considérablement les temps de trajet. Donc parfois ils sont pas, parfois c'est juste un mirador avec quelqu'un qui regarde, mais les voitures sont pas arrêtées. Et parfois les checkpoints sont fermés. Et du coup la voiture par voiture, les forces d'occupation israéliennes donnent le droit de passer au compte-gouttes. Et donc là.
Et c'est à des endroits fixes où les gens savent à l'avance qu'il va y avoir un checkpoint et juste ils découvrent. Enfin, c'est pas toujours ouvert ou pas toujours fermé, mais il y a aussi des checkpoints volants qui peuvent être mis en place un peu à l'improviste un peu partout, qui peuvent prendre différentes formes. Ça peut être l'armée qui arrête les voitures, ou des fois juste ils posent des cailloux sur les routes, ou ils prennent une pelleteuse et ils mettent du remblai sur la route, des gravats, okay, sur la route, simplement pour couper le déplacement. Et donc du coup ça peut avoir des conséquences y compris tragiques, hein, si en cas d'urgence médicale ou quoi, et puis surtout voilà, c'est ça fait que tu sais à quelle heure tu pars, tu sais pas à quelle heure t'arrives, quoi. Donc ça peut être vraiment ça complique vraiment au quotidien la vie de tout le monde.
Et parfois c'est pas l'armée d'ailleurs, c'est juste des colons qui sont aussi armés, qui se permettent d'arrêter et de bloquer la circulation
et de faire des espèces de barrages. Et vous avez senti d'autres choses comme ça qui sont un peu, qui donnent un sentiment d'être contrôlé ou enfermé?
L'armée, elle est hyper présente dans les villages aussi. Nous, on a eu des histoires de deux villages, donc à cheval sur la zone B et la zone C.
Oui.
Un village Bourine où l'armée venait tous les jours jeter des gaz lacrymogènes, sur juste les enfants qui jouaient dans la rue, quoi. Et donc tous les jours en fin de journée c'est à peu près la même chose, avec l'armée qui arrive juste pour dire que en fait ils sont là, qu'ils peuvent dire aux gens de rentrer chez eux et qu'ils en ont le pouvoir. Et là nous dans le village on a été à Al-Mukhaïr, il y a une nuit où l'armée est venue et a juste commencé à tirer en l'air. Bon, moi j'étais terrifiée et du coup je dormais dans la même chambre qu'une femme palestinienne qui était pas très rassurée, mais qui m'a quand même dit qu'il faisait ça souvent pour empêcher les gens de dormir, mais qu'en fait à tout moment ça pouvait aussi partir en raid dans une maison où ils cassent tout, okay, ils contrôlent, etc. Et le lendemain matin. Les hommes palestiniens chez qui on était se sont un peu plus foutus de ma gueule en disant mais nous, ça nous berce maintenant.
et ouais, et après moi du coup après je suis parti plus dans le sud à Massafer Yatta, où du coup c'est un endroit où le face-à-face en fait il est vraiment très très présent, encore plus que dans d'autres zones, parce que vraiment les colonies en fait sont dans un plan d'encerclement des villages palestiniens, et donc du coup c'est vraiment c'est-à-dire que vraiment les Palestiniens voient le visage depuis chez eux des personnes qui ont volé la maison de leurs parents, de leur famille. Avec du coup les colonies avec des colons armés, des avant-postes, des colonies avec aussi des colons armés, voilà, des colons qui se promènent en voiture, en quad, à pied, en escouade, voilà. L'armée qui passe à travers les villages palestiniens, sur les routes autour, et tout ça, qui construit des espèces de petites guérites militaires où ils peuvent avoir une présence plus ou moins régulière. Là, juste à côté du village où ils étaient, ils avaient aussi mis une tente où ils avaient décidé d'y être 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'était vraiment à genre 50 mètres de la maison de quelqu'un. Donc ça crée vraiment un sentiment assez étouffant d'encerclement où, en fait, genre, quand on est dans cet endroit-là, on peut s'attendre à voir arriver quelqu'un armé vraiment de n'importe quelle direction, quoi. Ça peut arriver de n'importe où. Et du coup, c'est très, très flippant, surtout que, en fait, parfois ils tirent. Enfin, là, il y a eu des personnes qui ont été tuées. Et encore récemment, là, j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait eu de nouveau des tirs, en fait, et des personnes. Une personne qui a dû être amputée de la jambe, là, récemment, à côté, dans ce village, quoi.
Ah, donc c'est vraiment une pression permanente, permanente, quoi.
Pour rebondir sur la question des colonies, la nuit, elles ont l'habitude de mettre tout autour de la colonie, il y a du grillage et il y a des lumières hyper fortes qui sont tout le temps allumées. Je suppose que eux, ils le justifient en disant que c'est pour la sécurité. Mais je me souviens qu'à un moment, on était dans la vallée du Jourdain, et du coup, c'est quand même une zone pas du tout urbaine. Et on est un peu dans la montagne, quoi. Et en fait, t'as tout le temps cette lueur hyper blanchâtre, d'un spot lumineux, mais tellement fort qu'il illumine toute la montagne. C'est hyper bizarre comme sensation d'avoir ça dans la nature. Et qui, en plus, c'est hyper éblouissant. Donc ça, c'est... Ça donne aussi bien le sentiment d'être cerné.
Une espèce de rappel visuel à chaque fois.
Et après, ce qui est... Enfin, donc du coup, il y a la présence de l'occupation. Et après, en contrepoint, malheureusement, il y a aussi, en fait, l'absence des martyrs et aussi des prisonniers. Puisque on sait que du coup le système carcéral israélien tourne à plein et que voilà, le pourcentage d'incarcération est énorme au sein de des hommes palestiniens et de la population palestinienne en général. Mais du coup, ce qui est aussi impressionnant, c'est la manière dont, en fait, dans les familles, dans les foyers, on rend présent toutes ces personnes qui sont soit tombés, soit dans les geôles coloniales, où on nous racontait leurs histoires, il y avait leurs tableaux au mur, on en parle, on s'en rappelle, et tout ça. Et donc, ouais, ça c'était assez... Enfin, moi j'ai trouvé ça très fort.
Je vous propose de passer à la suite de l'intervention de Sana.
Allez.
Dans l'autre sens, c'est les violences des colons qui ne cessent pas d'augmenter. Entre octobre 2023 et septembre 2024, il y a eu plus de 1400 attaques des colons, avec des destructions de cultures, l'arrachage d'arbres et même parfois des meurtres. Et depuis 1967, par exemple, il y avait plus de 800 000 d'oliviers qui ont été déracinés. Et bien sûr, tout cela a des conséquences économiques énormes. La plupart de l'agriculture, la part de l'agriculture dans le PIB palestinien a chuté de 14% dans les années 1990 à seulement 5,1% en 2011. Et si il y a une nouvelle étude et des nouvelles statistiques, et ça sera, le pourcentage sera encore moins de ça. Donc, les restrictions, les saisies de terres et la pénurie d'eau ont réduit énormément la productivité et forçant de nombreux agriculteurs à vivre dans la pauvreté et à dépendre de l'aide extérieure. Même selon une étude de la Banque mondiale, elle estime que lever les restrictions en zone C pourrait augmenter la production agricole de 890 millions de dollars par an et créer plus de 7 millions de dollars de production de forage.
Donc on vient de réécouter Sana qui nous a parlé pas mal de l'accaparement de l'eau. Vous avez des choses à dire là-dessus ?
Oui, mais alors, juste pour revenir aussi sur le premier truc qu'elle dit, les violences coloniales. Donc, en entendant les violences des colons, on en parle et tout, mais... Enfin, juste, c'est quand même un truc, mais c'est complètement inimaginable et c'est hyper dystopique, en fait, de se dire qu'il y a des mecs, des enfants armés qui sillonnent la Cisjordanie pour effrayer et s'accaparer et juste faire violence et prendre et voler. Enfin, et en fait, quand on y pense, enfin, ça fait tellement mal et genre... Enfin, il n'y a pas vraiment de mots, mais... C'est juste que là, on en parle, mais en réécoutant Sana, je me dis quand même que c'est vraiment horrible et dur, quoi. Et donc oui, et ces violences, elles touchent aussi donc vachement ce truc de l'eau avec... Ben, nous, on a vu plein de citernes accaparées, de tuyaux d'irrigation vandalisés. Et la fameuse histoire de la piscine, tu veux la raconter ?
Oui, bah, ça c'était du coup dans la vallée du Jourdain, on était chez des agriculteurs qui nous expliquaient qu'il y avait une source qui avait toujours servi à irriguer les cultures du coin, donc qui était partagée par différentes familles de paysans, et donc en fait qui était captée à l'intérieur d'un bassin pour stocker l'eau temporairement avant d'être pompée pour irriguer différents champs. Et du coup, ce bassin, en fait, un jour, il y a des colons qui sont venus un peu se baigner dedans. Et donc, du coup, les agriculteurs, ils ont vu ça. Ils nous ont dit, bon, après, nous, voilà, on n'est pas racistes. On les a pas direct chassés. Tant que ça nous dérange pas, on les a laissés faire. Et en fait, progressivement, ils sont venus de plus en plus nombreux. Ils sont venus avec leur famille. Et puis après, ils sont venus beaucoup. Ils ont commencé à construire des tables de pique-nique et tout ça. Et un beau jour, en fait, ils ont décidé que ça allait pas du tout, que les Palestiniens prenaient trop d'eau et que du coup, l'irrigation, en fait, les empêchait de profiter de leur piscine. Et donc, du coup, ils ont complètement interdit l'accès, enfin bloqué l'accès aux paysans qui avaient besoin de cette eau pour leur culture. Et du coup, là, quand on y est passé, voilà quoi, ils avaient construit toute une terrasse, les tables de pique-nique, tout ça, il y avait des canettes de bière de partout. Et voilà. Et donc, ça, c'était un endroit qui maintenant, les personnes, quand elles s'en approchent, elles risquent de se faire tirer dessus, quoi.
Ouais, c'est pas un exemple anodin, je trouve, c'est assez parlant. Je me permets d'enchaîner avec toujours un texte dans « Nettoyage ethnique de la Palestine » d'Ilan Pappé. Il y a un petit passage qui parle du vol des terres de 1950 à 2000, donc après toujours la Nakba. C'était le service installation du Fonds national juif qui décidait du sort des villages détruits une fois qu'ils étaient rasés. Ce qui allait les remplacer, implantations juives ou forêts sionistes. Dès juin 1948, le chef de ce service, Joseph Waitz, avait déclaré au gouvernement israélien « Nous allons commencer les opérations de nettoyage, de déblaiement des décombres, de préparation des villages à la culture et à l'habitation. Certains deviendront des parcs. » Assistant lui-même aux destructions en cours, Waitz avait fièrement noté qu'il restait insensible à la vue des tracteurs détruisant des villages entiers. Mais c'est un tout autre tableau
qui a été présentée au grand public. La création des nouvelles implantations juives s'est accompagnée de slogans tels que « faire fleurir le désert » et les activités de boisement du Fonds national juif ont été vendues comme une mission écologique, conçue pour que le pays reste vert. La plantation de forêts n'était pas la première option. Le choix ne reposait en fait sur aucune stratégie claire. Il était fait de décisions au coup par coup. Il y avait d'abord les terres cultivées, abandonnées, où l'on pouvait immédiatement faire la récolte. Puis, les parcelles de terres fertiles potentiellement capables de produire des denrées agricoles dans un proche avenir qui allaient aux implantations juives anciennes ou étaient mises de côté pour de nouvelles. Le Fonds national juif, nous l'avons vu, a eu beaucoup de mal à faire face à la concurrence des mouvements de kibboutz. Ceux-ci commençaient à cultiver les terres des villages voisins avant d'avoir reçu l'autorisation de les prendre. Après quoi, arguant du travail qu'ils y avaient fait, ils en exigeaient la propriété. En règle générale, l'État considérait que les terres devaient être attribuées en priorité aux implantations juives existantes, puis à la construction de nouvelles. Le boisement n'arrivait qu'en troisième position.
Toi, tu pensais nous parler un petit peu de la contrôle du faune et de la flore par l'entité sioniste ?
Oui. Non, mais... Oui, je pense qu'on a eu plusieurs histoires. On a vu à plusieurs reprises comment voilà, contrôler ce qui vit et ce qui pousse sur un territoire permettait aussi le contrôle de ce territoire. Donc au niveau des plantes, donc ça a été avec... donc maintenant, ils sont un peu en train de revenir dessus et en train de se réapproprier l'olivier, mais il y a eu quand même beaucoup d'arbres arrachés. Et pour planter plutôt des résineux. Et ça a été pas mal raconté. Oui, enfin, peut-être tu veux parler des sangliers.
Oui, bah, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des stratégies d'introduction d'animaux pour détruire les cultures palestiniennes. Donc au début, ils avaient introduit des gazelles pour bouffer en fait, les cultures des Palestiniens. Et en fait, après, ils se sont rendus compte que ça marchait pas très bien, aussi parce que les gazelles étaient chassées et mangées par les Palestiniens. Et du coup, ils ont introduit des sangliers, puisque du coup, les Palestiniens n'en mangent pas. Et donc maintenant, c'est devenu vraiment un gros problème, parce qu'il y en a énormément et qu'ils détruisent toutes les cultures qui ne sont pas protégées par des énormes barrières. Et du coup, c'est...
Ah ouais, c'est fou quand même. Donc les sangliers, quand on parlait en Palestine, c'est une espèce qui a été introduite, du coup, en tout cas qui a été fait fleurir par les Israéliens pour empêcher, du coup, pour qu'ils mangent toutes les cultures que plantent les Palestiniens.
Oui, exactement.
Notamment les céréales, ouais. Avec vraiment la production en blé dans certains... village qui a juste été anéanti, quoi.
Ouais, tout à fait.
Mais il y a aussi tout ce que il y a aussi l'usage de la ressource naturelle, non,
De la réserve naturelle.
Pardon. Il y a aussi l'usage des réserves naturelles, ça je pense ça a été pas mal développé, comment c'est de la merde dans un contexte colonial, de développer des réserves naturelles. Je pense qu'il y a l'historien Guillaume Blanc qui a travaillé sur le sujet. Et du coup, c'est vraiment dire « Ah là, on va chasser tout le monde et cet endroit, pour en faire une réserve écologique pour la biodiversité. » Et en fait, ça permet de vider des villages, quoi. Et ça a été fait aussi en Cisjordanie.
Et dans ce truc de casser le lien entre l'homme et la terre, vous disiez que ça me faisait penser à peut-être des choses en Martinique ou en Kanaky.
Ouais, bah du coup, bon là c'est donc le livre de Malcolm Ferdinand, S'aimer la terre. Il parle, donc que je conseille. Donc lui aussi c'est un penseur de l'écologie décoloniale. Et il a vachement parlé du chlordécone, qui est un pesticide, et de son usage illégal en Guadeloupe et en Martinique, alors que même il était interdit dans l'Hexagone, et comment en fait ça pète le lien et la confiance que tu peux avoir en ta terre quand tu sais que ce qu'elle fait pousser en fait peut être toxique, et qu'on va t'interdire par tout un tas de règles et de normes de manger ce qui a poussé trop près du sol, de pêcher dans telle zone, et que ça brise quelque chose, quoi.
Carrément.
Et ouais, sur cet empoisonnement là, nous on a vu dans la vallée du Jourdain, il y a des avions en fait israéliens qui passent pour épandre des pesticides sur les grands champs. Voilà, enfin c'est vraiment une dynamique comme ça qui est à l'œuvre, une agriculture hyper hyper industrielle, quoi, et qui du coup a évidemment des conséquences sur les villageois à côté et sur leurs petites parcelles. Et effectivement, ça me faisait, enfin ce truc là de techniques de répression coloniale face à une agroécologie, ça fait aussi penser à ce qui s'est passé en Kanaky, où en fait il y a des leaders indépendantistes, mais aussi des gens comme Guillaume Vama qui travaille sur l'agroécologie et sur les moyens de produire de manière autosuffisante en Kanaky, qui en fait ont été incarcérés dans l'Hexagone, du coup, pour les couper complètement de leur sociabilité et de leur terre, en fait. Et donc, du coup, voilà, c'est aussi comment est-ce que l'État français applique, en fait, des techniques coloniales, voilà, qui par bien des aspects ressemblent à celles des sionistes.
Je vous propose d'écouter le reste du témoignage de Sana.
Et face à cette situation très difficile de l'agriculture palestinienne, notre travail à l'OAC, une ONG palestinienne qui travaille dans la Cisjordanie et à Gaza aussi, notre travail est plus essentiel que jamais. Et nous soutenons les agriculteurs palestiniens, et notamment ceux qui sont confrontés aux impacts de l'occupation, et à travers des projets de sensibilisation, des formations en agroécologie, des initiatives pour améliorer l'accès à l'eau et aux ressources agricoles, comme par exemple la construction de routes agricoles, etc. Et donc on travaille à renforcer la résilience des communautés rurales. Le travail de l'OAC aussi met l'accent particulier sur l'autonomisation des femmes et des jeunes en les formant aux techniques agricoles durables et innovantes. Et donc, malgré les nombreuses difficultés, nous restons déterminés à maintenir l'espoir et à offrir des opportunités pour un avenir plus durable pour l'agriculture palestinienne. Donc, en résumé, il est urgent que la communauté internationale agisse pour soutenir l'agriculture palestinienne afin de préserver et garantir l'accès des paysans à leurs terres. Merci.
Donc, on a écouté la fin du témoignage de Sana. Pour suivre la suite sur Que fait l'OUAC, on vous propose de voir ça dans un épisode suivant. À bientôt.
À bientôt.
وتفصلت بحلم وهتزت الشام يا العريس.